Alors, cette conférence, en fait, le titre, en tout cas celui qu'on m'avait proposé, c'était « L'art comme reflet de la société ». Un détail important près, c'est qu'il y a un point d'interrogation à la fin. C'est l'art, c'est pas comme on le dit avec un ton interrogatif, mais ça donne « L'art, reflet de la société ». Il faut monter à la fin. C'est un titre que j'aime bien sous cette forme d'interrogation. Parce que quand on l'affirme que l'art est un reflet de la société, on dit à la fois trop et trop peu. Trop parce que l'idée que l'art est un reflet de la société suppose une image un peu mécanique, hein, quelque chose qui ne peut pas être autrement, et trop peu parce que ça reste extrêmement vague. Tandis qu'une interrogation là-dessus est comme une incitation à chaque fois se poser la question, oui, il y a bien un rapport, mais comment le saisir, comment le comprendre. Alors j'avais prévu de vous faire entendre quelques morceaux de musique, et donc je vous raconte une micro-anecdote qui va me servir de point de départ. Mon iPod, j'en ai un, comme beaucoup de gens, m'a laissé en rade il y a 2 jours, subitement, 75 gigas de musique, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est beaucoup, sont tout à coup disparus comme ça, impossible d'accéder, notamment à quelques morceaux que j'avais envie d'utiliser pour aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de faire de ça comme une sorte de symptôme d'une époque pour essayer de me consoler de cette perte qui est quand même un peu rude. Et je me suis dit, voilà un exemple de comment la fragilité des collections est toujours là quelque part. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais disons, quand j'ai commencé à écouter de la musique, la manière normale de faire une collection des gens, des sons qu'on aimait, c'était d'accumuler des vinyles et parfois de les copier aussi sur des cassettes. À une époque où on ne parlait pas vraiment de piratage, alors que le principe n'était pas très différent, n'est-ce pas? Maintenant, on en est aux iPods qui sont très bien et qui donnent cette illusion, pas seulement l'iPod, mais en général la technologie numérique, d'une sorte d'accès permanent à une médiathèque universelle, d'une sorte de bibliothèque musicale illimitée, sauf qu'il y a toujours comme une fragilité intrinsèque des dispositifs techniques qui nous ramène à l'idée que, pas que tout peut disparaître, mais qu'en tout cas, chaque forme de collection, c'est bien de collection que je parle, est toujours un peu soumise à des aléas qui ne sont pas seulement personnels, c'est pas mon histoire personnelle que je vous raconte là. Donc du coup, bon, heureusement j'avais d'autres manières de vous proposer des exemples, il y en aura. Mais ça m'a fait penser aussi à quelque chose qui est tout à fait propre, je pense, du rapport que nous pouvons avoir à la musique ces derniers temps, ces dernières années, et qui passe donc par cette idée qu'il y a la même distance entre nous et un morceau du Moyen-Âge, par exemple, qu'entre nous et le morceau qui vient d'être composé tout près. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... une manière de mettre à niveau l'ensemble des produits culturels qui sont à notre disposition. J'idéalise, j'exagère un peu peut-être, n'est-ce pas ? Mais dans l'ensemble, je crois que c'est un trait caractéristique. Et avec un peu plus de temps, on pourrait mettre ça en relation avec un petit mot qui a été très à la mode il y a quelques années, maintenant un peu moins, à savoir le mot de postmodernité ou de postmodernisme. C'était une tendance en philosophie, en art, en musique aussi, on se disait ce sont des signes d'une époque où toute la musique de l'histoire humaine, en principe, est disponible, ou pourrait l'être. Et ça a un effet assez fort sur la capacité que nous avons de nous faire un répertoire de musique favorite. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, déjà on peut en parler, à comment on choisit la musique qu'on aime, comment ça se passe, qu'on s'identifie à une musique, à des musiques même. Tout à fait caractéristique de l'importance sociale qu'a la musique dans nos sociétés, de l'importance collective, je veux dire. Le fait qu'il y a peut-être, c'est l'art qui le plus nous marque en tant que nous-mêmes. Si on demande aux gens comment tu te définis d'un point de vue subjectif, il est fort probable qu'à un moment, assez vite, vienne la question des goûts personnels, des goûts artistiques. J'aime tel artiste, j'aime tel musicien. Et c'est tout à fait caractéristique de voir que la musique a ce rôle-là, subjectif, plus fort quelque part que d'autres arts. Si je vous dis j'aime Led Zeppelin, ça va trahir mon âge, mais enfin, tant pis. Ça va en principe dire quelque chose de plus intime de moi que si je vous dis j'aime Stephen King. Je dis n'importe quoi, d'ailleurs, je n'aime pas particulièrement. Mais je veux dire, il y a cet accès au subjectif, cet accès à l'intime qui est très présent dans les goûts musicaux des uns et des autres. Donc, si vous voulez, on peut en parler. La manière que nous avons de constituer nos goûts musicaux est très parlante, très éloquente pour ce qui est de qu'est-ce que l'art signifie dans nos vies. Justement, je me disais, je vous proposais d'en parler plus tard, donc je vais très vite, mais il y a une manière de choisir ses goûts, c'est par l'environnement familial ou vos amis. Il y a une autre par les médias, on va dire, par souvent la publicité, s'il s'agit de choses très récentes. Et il y en a d'autres qui ont trait à l'éducation, bien sûr, et en particulier à l'éducation de l'histoire de la musique. Mais face à toute cette immensité de musique disponible, c'est comme si on faisait chacun un chemin en sélectionnant des choses, en écartant d'autres. Et il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur l'idée que les œuvres d'art et les goûts sont des manières de nous distinguer, de montrer que nous avons quelque chose de singulier, que nous partageons avec un groupe, mais pas avec tout le monde. Pierre Bourdieu, en particulier, a écrit un livre qui s'appelle « La distinction », qui explique ça, comment les gens utilisent l'art pour se distinguer, pour être quelque part eux-mêmes et être différents d'autres. Ce qui est le plus frappant, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est que à peu près, il y a deux générations, on va dire, une génération, 40 ans. Quand on demandait aux gens, appelons ça des gens cultivés, avec quelques guillemets, n'est-ce pas, quelle est la musique la plus importante, la plus qu'il faudrait sauver, par exemple, pour une collection idéale? Alors, en général, on allait vous répondre, c'est la musique classique. On appelait ça parfois la grande musique, on mettait même des majuscules, on appelait aussi la musique savante. Donc c'est comme s'il y avait l'idée qu'il y avait d'abord cette musique classique, et le reste, c'était une sorte d'univers un peu suspect, où il y avait des choses pas mal. Par exemple, la même personne aurait pu vous dire... oui, Brassens, par exemple, c'est quelqu'un de bien, ou Brel. Mais dès qu'on allait trop vers ce qui ressemble à de la musique pour les masses, c'est-à-dire musique un peu commerciale, ça allait produire tout à fait rapide, de manière spontanée, une sorte de crispation. Donc il y avait une hiérarchie extrêmement nette, la musique classique est en haut, les musiques populaires, toutes tendances confondues, sont plutôt en bas, dans une situation... dominé, on pourrait dire, quelque part. Et c'est assez spectaculaire de voir comment ça a changé en l'espace de donc ces 40 dernières années. Aujourd'hui, il y a très très peu de gens, croyez-moi, qui diraient sans aucun regret, oui, la musique classique, c'est la seule qui compte, c'est la seule qui vaille la peine d'être enseignée, et le reste, c'est de l'aliénation, c'est quelque chose de pas tout à fait artistique, etc. Au contraire, il y a beaucoup plus de chances qu'aujourd'hui, quelqu'un, même qui ait fait de la musique, par exemple de la musique classique, vous dise quelque chose du genre « tous les genres sont légitimes, il y a du bon dans toutes les manifestations musicales, on a le droit de choisir ses goûts, de choisir là-dedans comme on veut ». Et d'ailleurs, moi-même, vous voyez, j'écoute de la musique classique, comme j'écoute du jazz, du rock, de la world music, des musiques traditionnelles, etc. C'est d'ailleurs à peu près mon cas. Enfin, je passe sur mon catalogue personnel, disons. Mais donc, en 40 ans, on a pratiquement changé de modèle de ce que c'est que la bonne musique. On est passé d'un modèle qui disait « la bonne musique, c'est la musique classique », à un autre modèle qui dit « il y a du bon et du mauvais dans tous les types de musique et il faut se choisir, disons, pour soi, se faire un répertoire là-dedans ». Alors, je schématise, hein, bien sûr, les choses ne sont jamais noires et blanches, mais c'est quand même une tendance très, très forte. Et ça, il y a un sociologue américain qui a donné un mot à cette nouvelle manière de concevoir les goûts musicaux. Il dit, c'est le triomphe des omnivores. Omnivores comme ces animaux, dont les humains d'ailleurs, qui mangent toutes sortes de nourriture, contrairement à des animaux univores qui n'en mangent qu'un. Donc ça pouvait être par exemple des gens qui n'écoutaient que du jazz. Ça, c'est un univore. Il y en a quelques-uns. Mais c'est plus fréquent maintenant qu'on se réclame d'une certaine forme d'omnivorité. C'est-à-dire, toutes les nourritures sont bonnes pourvu qu'elles soient bien préparées, que ça vaille le coup et que les gens qui le font aient un peu de talent, un peu de qualité. Donc, voilà, je laisse un peu de côté un aspect extrêmement important des études sur les arts et sur la musique en particulier. C'est ce qu'on appelle parfois la réception. Quand on parlait d'art et de société tout à l'heure, je disais de manière très générale, oui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a bien un rapport entre art et société, mais cette relation, on peut la penser aussi bien du côté des artistes, hein, quel est le rapport entre tel artiste, tel musicien qui fait quelque chose aujourd'hui, et la société en général, donc on peut faire ça, mais on peut aussi le penser du côté de la consommation, ou de la réception, hein. Quel est le rapport entre une société et ce que les gens, les individus, consomment, préfèrent, pratiquent comme musique. Donc cette question de la réception, elle est tout à fait essentielle. Cela dit, je vais maintenant prendre les choses un peu différemment, et ça va m'amener rapidement à mon premier exemple musical. C'est comment la réception, justement, que l'on a d'une certaine musique peut changer, peut être modifiée par des conditions du rapport au contemporain et en l'occurrence la technologie. Je ne suis pas spécialiste de la technologie musicale, mais en tant qu'historien de la musique, je vois que c'est quand même une dimension très importante. Et donc je vais vous donner une idée tout à fait précise de ce que j'ai en tête en vous parlant de technologie. En allant vers mon premier exemple. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais en tout cas, voici. Le début du premier mouvement du troisième concerto brandebourgeois de Bach, donc début du XVIIIe siècle, sauf que vous l'avez reconnu, ce n'est pas exactement le son d'un orchestre baroque ce qu'on entend là. En fait, il s'agit d'un disque qui date de 1968, un disque très très célèbre, dont le titre en anglais est Switch on Bach, ce qui veut dire à peu près du Bach branché. Et donc c'était un jeu de mots avec l'idée qu'il fallait bien le brancher, ce Bach-là, puisqu'il est fait ici avec un synthétiseur Moog. C'est un appareil mythique pour non seulement les musiciens qui s'intéressent à la question des musiques électroniques de cette époque, mais aussi pour les musiciens de rock qui l'ont beaucoup utilisé. Et l'auteur de ces arrangements, de ce disque, est un musicien qui s'appelait Walter Carlos. Et il s'appelait pour deux raisons, j'utilise le passé, d'abord parce qu'il est mort, mais ensuite parce qu'il a changé de sexe à un moment de sa vie, et après il est devenu Wendy Carlos. Mais en tout cas, à l'époque où il a fait ce disque, c'était toujours Walter. Et ce disque a été un tube mondial. Ça a été absolument foudroyant pour un disque de musique baroque. C'est quand même de la musique écrite au début du XVIIIe siècle, qui, dans les années 60, s'est vue propulsée, comme on dit, à la tête des meilleures ventes, à cause de la modernité qu'introduisait cette idée du synthétiseur. Et à cause de la proximité, tout à coup, qu'il y avait ce son avec ce que faisaient certains musiciens de rock, justement, ou ce qu'on faisait dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec une idée figée du patrimoine. Vous voyez, la musique de l'époque de Bach, c'est vraiment formidable, elle est encore aujourd'hui, bien sûr, tout à fait capable de nous parler de manière intime, mais quand on regarde d'un point de vue historique, c'est clair, c'est une musique qui a trois siècles, Tandis qu'avec cette idée du synthétiseur, Walter Carlos, on a fait quelque chose d'extrêmement actuel. Et pourquoi c'était actuel? Eh bien, parce que les années 60 étaient non seulement une époque où le développement technologique était très rapide, mais aussi où il y avait beaucoup d'idées, encore aujourd'hui, bien sûr, ça n'a pas vraiment changé, mais à l'époque des années 60, il y avait encore une énorme, dimension utopique de tout ce qui est lié, qui était lié aux technologies d'avenir. En un mot, c'était un peu une époque d'or pour la science-fiction. Le synthétiseur, qui était cet instrument à l'époque très novateur, était une sorte de science-fiction transformée en pratique quotidienne, où en principe, c'est l'idée même du synthétiseur comme ce qui est synthétisé, tous les sons possibles et imaginables pouvaient être produits à partir de cette machine qu'en plus, rapidement, chacun a pu acheter. Donc, Monsieur Moog, Robert Moog, qui est l'inventeur de cet engin, est devenu une célébrité. En plus, il est devenu riche, sans doute. Et il a en tout cas marqué quelque part cette époque avec une musique qui était à la fois ancienne, puisqu'il s'agissait de Bach, et moderne, parce qu'elle avait tout d'une incarnation de cette sorte d'utopie technologique qu'on vivait encore. Alors, c'est pour ça que je vous disais que la technologie a un lien très important avec la perception qu'on peut avoir socialement de la musique. Et je voudrais compléter ce premier exemple par un autre qui est un peu complémentaire, si vous voulez, que vous allez, là encore, peut-être reconnaître. Vous connaissez ce morceau? Non? Bon, c'est vrai que ce dispositif comme ça, quelqu'un sur une scène dans un théâtre, c'est pas exactement un dispositif de dialogue, mais enfin, vous avez dit que vous ne le connaissez pas. Ça date en effet de 1978, donc c'est un morceau qui a quand même quelques années. C'est We Are the Robots, c'est le titre du morceau, et c'est... les musiciens sont le groupe allemand Kraftwerk, qui, même s'il date un peu maintenant, il est devenu très connu comme une sorte de précurseur, de groupe précurseur de la musique techno ou électro, tout ce qu'on a fait ces dernières années sous ce label-là. Pourquoi je vous passe ce morceau? D'une part parce que déjà dans l'espace de la période qui va de 78 où on a fait ce morceau jusqu'à aujourd'hui, ces trente et quelques années, on voit que le statut de ce morceau a changé. À l'époque où il est sorti, c'était vraiment quelque chose de branché, une fois de plus. Maintenant, on le regarde plutôt comme une sorte de pièce de musée. Vous savez qu'on peut penser aussi aux collections musicales comme un musée musical imaginaire. Donc il y a un écart d'époque qui très vite s'est creusé et qui fait qu'on peut entendre, en tout cas moi je l'entends comme ça, comme une sorte de symptôme d'époque. Et pourquoi je disais que c'était complémentaire à mon exemple de Bach par Walter Carlos? Parce qu'ici, c'est de robots qu'il s'agit, et vous savez, depuis le début du XXe siècle, quand on parle de robots, en général, c'est pour faire peur. Il y a des idées comme quoi, un jour, les robots vont tout faire à notre place, et on sera très content de les avoir, mais en général, les robots dans les films de science-fiction, dans les récits, c'est une image de la déshumanisation, c'est une image d'une sorte de perte de l'humain qui souvent en plus prend des allures de catastrophe hein, quand les robots se déchaînent et donc font la loi à la place des humains et ainsi de suite. Et donc c'est un peu ce qui est suggéré par le traitement de la voix dans ce morceau, qui est une voix humaine bien sûr, mais traitée par un appareil électronique, qui rend le timbre tout à fait mécanique, tout à fait déshumanisé. Et donc, on dirait que, comme pendant pour cette période, années 60-70, c'est assez parlant, je crois, de voir que d'un côté, il y a une dimension utopique, les technologies, les synthétiseurs, par exemple, vont mettre tout un monde de sons à l'accès de tout un chacun, et en même temps, il y a un risque de perte de l'humain, un risque de mécanisation, un risque d'aliénation, c'est un mot à l'époque on utilisait beaucoup. Et vous voyez en plus que j'ai pris deux exemples qui viennent de mondes musicaux très différents. Dans le cas de Walter Carlos, c'était plutôt le monde de la musique classique, naturellement, même si c'était une musique classique bizarre. Ici, c'est la musique pop, on va dire, pour les années 70. Et dans les deux domaines, la musique classique comme la musique pop, on a des images, une sorte de fantasmagorie de l'avenir, parfois effrayant, parfois au contraire excitant, comme une sorte de promesse de bonheur. Alors pour clore cette première partie de mes exemples musicaux, je vais vous faire entendre un troisième morceau qui a un lien très très fort avec la technologie. C'est un tout petit peu plus ancien, puisque c'est un morceau qui date de 1950. Vous allez peut-être tout de suite comprendre pourquoi ça peut avoir un lien avec ce qu'on vient de dire. En tout cas, il s'agit de l'un des mouvements de la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, qui sont, on peut dire ça dans une phrase, les fondateurs de la musique concrète. On peut tout à l'heure parler de qu'est-ce que ça veut dire. Voilà donc un petit fragment de la symphonie pour un homme seul. Ce mouvement s'appelle Erotica. Peut-être que vous comprendrez pourquoi, n'est-ce pas? Je reviens sur la dimension érotique de ce morceau. Mais pour l'instant, je voulais juste en rester à la question de la technologie, mon sujet précédent. Vous avez vu, il y a des boucles. Vous avez plutôt entendu, il y a des boucles dans ce morceau. C'est l'une des raisons pour lesquelles la musique de Pierre Henry et la musique concrète en général est aujourd'hui très souvent revendiquée par les musiciens qui font de l'électro, parce que cette question de la boucle est devenue un peu le procédé de base de la composition, et pas seulement pour l'électro, pour le rap aussi. Et tout ça grâce à l'ordinateur qui rend cette manipulation extrêmement simple. Alors à l'époque où Pierre Henry et Pierre Schaeffer ont fait ça, il n'y avait pas encore l'ordinateur, naturellement. Et donc, toute la musique concrète a reposé sur des bandes magnétiques qu'il fallait couper par petits bouts. C'est-à-dire que les boucles étaient vraiment des boucles avec des ciseaux et de la colle qu'on faisait tourner pour ensuite enregistrer la séquence et ainsi de suite. Et donc, cette invention, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été d'une nouveauté incroyable. Et ça reste l'une des grandes inventions du XXe siècle, la musique concrète, qui s'appelle concrète, c'est ce que disait Schaeffer, précisément parce qu'elle prend comme point de départ, comme matériau, l'enregistrement de choses qui existent, de choses réelles. Par exemple, il y a eu des œuvres entières qui ont été faites par Pierre Henry sur le bruit d'une porte. L'un des premiers morceaux de Pierre Schaeffer s'appelle « Étude au chemin de fer » parce qu'il est allé gare de Batignolles avec un micro pour enregistrer le bruit des locomotives et des trains, et avec ça il s'est enfermé dans un studio et il a fait cette étude au chemin de fer que je vous conseille d'entendre. Donc la question du rapport à la technologie était une question expressive, une question technique, mais c'était aussi une question d'image de l'avenir. Et donc, je voulais juste ajouter un mot sur ces histoires autour de la technologie. À cette époque, donc, c'était l'époque du début de la guerre froide. On parlait beaucoup de la bombe atomique. On était 5 ans après Hiroshima. Il y avait un grand débat. Est-ce que la science ne va pas nous tuer tous? Maintenant, on a un peu perdu l'habitude. Mais dans les années 50, 60, 70 encore, l'idée qu'il y aurait une guerre nucléaire et que l'humanité allait y passer, c'était vraiment, on vivait avec ça de manière quotidienne. Et Pierre Schaeffer était de ceux qui disaient, le problème, ce n'est pas les machines, ce n'est pas la science, lui-même était ingénieur de formation. Le problème, c'est les êtres humains qui peuvent faire le meilleur ou le pire avec ces machines. Donc du coup, il mettait la musique au centre d'une discussion dont l'enjeu était celui-là, l'enjeu éthique sur le rapport à la science, le rapport à la technique et le rapport à la création, à la liberté d'expression. En même temps, je vous disais, il y a dans ce morceau, dans la symphonie d'un homme seul, il y a un travail avec une voix, qui est une voix de femme naturellement, et qui est travaillée dans un sens qui a une connotation érotique, en même temps quelque chose d'un peu drôle. Enfin, j'entends toujours comme une ironie dans ce morceau, une manière ludique d'approcher une voix féminine en l'occurrence. Et donc, dans cette même pièce qui peut nous servir à réfléchir sur quel rapport entre musique et société au sens de la technologie, les enjeux de la politique internationale, la guerre froide, etc., on peut aussi partir dans une autre direction et se dire quel rapport entre la musique et la représentation de la sexualité, par exemple, ou des rapports entre les sexes, ou de la question de la femme. Et là encore, ce sont des thématiques qui, vous comprenez bien, ce n'est pas seulement la musique classique ou les musiciens qui sont dans la tradition classique qui s'intéressent à ça, c'est tout le monde. Et donc on peut trouver des manifestations de cette question, des rapports entre les sexes, des rapports entre les genres, dans tous les domaines musicaux. C'est encore un argument pour, je le dis un peu pour... disons, la communauté imaginaire de mes collègues, pour s'intéresser à toutes les musiques à la fois, ou en tout cas sans faire de hiérarchie, de rapport entre la grande musique et d'autres qui seraient moins grandes. Donc en tout cas, du point de vue de l'historien du social, il y a des choses importantes qui se passent un peu partout. Alors pour en rester un peu à la question de la voix humaine, et en l'occurrence il s'agit toujours d'une voix de femme, je voulais maintenant vous faire entendre un morceau qui est, de la musique contemporaine au sens de la musique savante, et qui est une composition de l'italien Luciano Berio, B-E-R-I-O, qui date de 1966 et qui s'appelle Sequenza 3. Sequenza en italien, ça veut dire tout simplement séquence. Et c'est la numéro 3 parce que Berio a écrit des pièces solistes, c'est pour un seul interprète à chaque fois, pour un grand nombre d'instruments. Et dans le cas de la séquenza 3, il s'agit de la voix humaine. En l'occurrence, ce n'est pas seulement une anecdote, c'est pour sa femme, Cathy Berberian, qu'il a écrit ce morceau, puisque Cathy Berberian était une très grande chanteuse de musique contemporaine. Et musique contemporaine veut dire quelqu'un qui était formé dans la musique classique et qui allait vers des manifestations un peu différentes de ce que pouvait être le chant lyrique. Je pense que nous avons tous une image pas forcément positive des grandes voix lyriques. Je ne sais pas si vous aimez l'opéra. Personnellement, moi, j'aime beaucoup l'opéra, mais je sens toujours comme une sorte d'étonnement face à ces grandes voix, les sopranos ou les ténors, qui sont si éloignées de la manière quotidienne de chanter et a fortiori de parler. Et Berio, c'est quelqu'un qui a choisi de trouver un type de vocalité qui soit lui aussi différent de cette musique d'opéra un peu figée. Voilà, le morceau est beaucoup plus long naturellement, mais il faut couper. Mais je vous conseille d'aller écouter et de réentendre, si possible, tout ce qui se joue dans des micro-variations. Je ne sais pas si vous avez aperçu la fin, les derniers sons. C'est pratiquement une seule note, mais à chaque fois, c'est comme une voyelle qui change, qui est modulée. Et Bélio nous invite à faire attention à ça, à ces petites différences d'intonation. Qui sont très éloignés des types de différences de nuances par jeu d'intensité, pianissimo, fortissimo. Enfin, c'est tout un vocabulaire nouveau que Bélio essayait de développer et qui passait, dans son cas, par une attention très grande au rire des femmes. Lui, il dit, bon, c'est normal puisque je suis hétérosexuel que je m'intéresse davantage au rire des femmes. Lui il prétendait en plus que le rire des femmes était plus riche musicalement que celui des hommes. Ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et dans cette idée même que le rire peut avoir une musicalité, que la forme dans le temps de comment un rire se développe peut avoir le même intérêt musical qu'une phrase conventionnelle, il y a une bonne partie à la fois de la manière de subvertir les manières habituelles de faire de la musique dans les années 60 et aussi de faire attention justement à la voix des femmes comme je disais tout à l'heure. Alors 66, on dit, je suis un peu revenu à la même période que le bac électronique dont nous sommes partis. C'est une période où il y a, comme vous savez, de très grands bouleversements un peu partout dans la culture. Et c'est la décennie d'éclosion du rock. C'est peut-être le grand phénomène des années 60 sur lequel on vit aujourd'hui. C'est l'apparition de cette musique qui n'est pas seulement intéressante en tant qu'elle-même, parce qu'on peut toujours la réécouter aujourd'hui, mais aussi parce que c'est peut-être le moment où on commence, en tout cas de manière massive, à parler d'une musique pour les jeunes, une musique qui serait une musique jeune. Avant, il n'y avait... L'idée, c'est qu'il y avait une musique, disons, la grande musique dont je parlais tout à l'heure, et que les jeunes étaient dans une période d'apprentissage, d'approximation, si vous voulez, d'incorporation de cette musique qui était un patrimoine général. Et dans les années 60, on a ce phénomène très important d'une musique jeune qui apparaît comme quelque chose qui est propre. Alors, entre-temps, bien sûr, les rockers des années 60 sont devenus des grands-pères, ou des grands-mères, donc cette idée d'une appartenance générationnelle est devenue moins évidente, parce que ça s'est étendu. Et l'idée un peu de fracture qu'il y avait derrière ce mouvement s'est transformée. On peut en débattre, d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir comment vous voyez les choses, mais il me semble qu'il y a plus ce clivage entre générations que le rock représentait dans les années 60 très sûrement. Donc, petit clin d'œil aux années 60 avec ce morceau d'un groupe qui s'appelait Cream et dont la figure principale était Eric Clapton. Et voilà, 62. 66. J'avais prévu de passer juste quelques secondes et puis je me suis dit que j'avais un peu de scrupule à couper le solo d'Eric Clapton. Alors au début, je vous parlais des omnivores et des univores. Vous souvenez, les omnivores sont les personnes qui mangent de toutes les nourritures musicales. Les univores seraient plutôt ceux qui n'en mangent qu'une seule. Récemment, j'ai lu un article de deux sociologues de la musique qui faisaient remarquer qu'en général, la tendance est bien celle de maintenant, on est tous plus ou moins omnivores. On a plus d'une spécialité musicale à notre catalogue personnel. Avec une exception relative, il disait, il y a pas mal de gens qui sont des univores, mais des univores du rock en particulier. Donc des gens qui avaient peut-être 18, 20 ans dans les années 60, 70, qui ont fait de cette musique une sorte de signe identitaire et qui encore aujourd'hui n'ont plus dévié de ça, de cette idée que le rock était la seule musique qui les intéressait. Et donc ça existe, il y a une sorte d'univorité, je ne sais pas si le terme est très correct, mais enfin il y a des univores du rock qui en plus, par la force des courbes d'âge, se retrouvent souvent dans des positions de pouvoir aujourd'hui, des chefs d'entreprise, des responsables politiques, etc. Alors qu'on pensait les années 60, c'est une musique de jeunes plus ou moins révoltés. Maintenant, on se retrouve avec ces mêmes morceaux qui sont une sorte de signe identitaire pour des gens qui sont dans des positions de pouvoir. C'est assez, je ne dis pas que ça résume l'histoire sociale du rock, mais enfin, c'est quand même une donnée intéressante. Alors, des années 60 sur lesquelles je me suis un peu promené jusqu'ici, je vais finir par un retour très rapide à notre époque, à ce qui se passe aujourd'hui, et donc à propos de l'omnivore, justement. Je vous disais, tous les genres sont plus ou moins reconnus comme valables, comme légitimes, et donc tous les mélanges que l'on peut faire avec notre époque, par exemple, quand il ne vous laisse pas en plan, sont aussi légitimes. Vous pouvez faire une liste de lecture où vous mélangez tous les genres que vous avez. Vous pouvez même faire ça comme mode de lecture aléatoire et donc ça donne à peu près un collage parfait de choses mélangées. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est un effet à la fois de l'évolution, disons, des mentalités, pour employer un terme un peu vieilli, donc des idées que l'on a sur la culture, et aussi des possibilités techniques. Plus vous avez des outils qui vous permettent de faire ça facilement, plus ça se généralise à la faveur d'un état, disons, de la culture, des idées sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est valable, etc. Et donc je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, du côté des artistes, je reviens vers les musiciens, on dirait que toutes les formes d'hybridation, de métissage, de crossover, comme on les appelle parfois, sont devenues banales, sont devenues quelque part non seulement à la mode, mais courantes. On mélange des genres plus souvent qu'on ne cherche à les préserver. Et là, je pense qu'il y a aussi un effet d'histoire des mentalités, comme je disais. Bon, je pense que ce n'est absolument pas un hasard si on a aujourd'hui Barack Obama, qui est un métis, comme vous savez, qui s'identifie lui-même comme noir américain, et qui est un métis, à la tête des États-Unis. C'est un peu le triomphe du métissage à l'échelle planétaire. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard dans le sens où le métissage est devenu le sens commun de ce qui est bien, et je ne cherche pas du tout à le contester, mais je vous fais la remarque simplement, alors que les puretés raciales, et pour de très bonnes raisons, sont devenues suspectes, voire dangereuses. Et donc, ça a une conséquence très directe sur la musique, où les musiques métisses, on peut les dire comme ça, sont très très présentes. Je ne sais pas si vous en écoutez beaucoup ou si vous réfléchissez à ces musiques comme des musiques métisses ou hybrides. Mon impression est qu'elles sont devenues beaucoup plus présentes qu'il y a quelques années et qu'elles sont comme une sorte de norme à la fois pour les artistes, pour les gens qui écoutent, etc. Mélanger, le mélange est bien en principe ou est intéressant. Et donc je vais vous faire entendre un morceau qui, à mon avis, représente ça de manière extrêmement précise. C'est un morceau de Gotan Project. Bon, c'est aussi un peu parce que je suis d'origine argentine, vous me passerez ce petit clin d'œil personnel. Mais en tout cas, la musique de Gotan Project illustre cette hybridation, ce métissage, de manière tout à fait frappante. Avec, vous allez l'entendre, je pense que vous le connaissez, en tout cas, il y a du tango. Il y a de la musique électro, et dans le morceau que je vais vous faire écouter, il y a aussi du rap. Thank you. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps peut-être d'ouvrir un peu le dialogue. J'ai d'autres morceaux, bien sûr, en réserve, mais bon, avec ce que j'ai essayé de dire, je pense qu'on a peut-être de quoi discuter un moment. Donc, merci, et c'est à vous, je vous écoute.